Votre émission sur Nutri Radio vous est présentée par le laboratoire Bionutrix, groupe Metagenix, mettant la science au service de votre santé et de votre bien-être par la micronutrition.
Lifestyle Medicine, Philippe Lenoir sur Nutri Radio.
Bonjour docteur.
Salut Fabrice.
Le docteur Philippe Lenoir, chaque jeudi 11h midi, c'est sur Nutri Radio, Lifestyle Medicine, la médecine du mode de vie. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial encore une fois, l'hyperméabilité intestinale. Est-ce que la médecine du mode de vie peut quelque chose contre cette hyperméabilité intestinale? Qu'est-ce que vous avez à nous dire si vous avez choisi ce sujet? J'imagine, vous connaissant que vous êtes tombé sur une étude.
Oui, oui, tout à fait, Fabrice. Bah, c'est que j'ai lu une étude intéressante sur le sujet, donc je voulais approfondir un tout petit peu ce sujet-là qui me paraît hyper important. Hein. Donc, pour ceux qui sont pas familiers avec ce terme, même si je pense qu'on est de plus en plus familiers, l'hyperperméabilité intestinale, bah, c'est quoi? C'est tout simplement un intestin qui est perméable. Donc, parfois, on parle d'intestin poreux ou de leaky gut en anglais. Et donc, c'est un état où la barrière intestinale qui normalement protège notre organisme en ne laissant passer que les nutriments nécessaires, eh bien, cette paroi, elle devient moins efficace. Et donc, ça permet à des substances nocives comme des aliments non digérés, des micro-organismes ou des toxines de s'infiltrer dans la circulation sanguine. Et ça peut déclencher une inflammation systémique et favoriser notamment les maladies auto-immunes.
Ah oui, d'accord. J'ai l'impression que c'est de plus en plus répandu. Cette étude, vous me disiez, qui était assez alarmante dans la mesure où elle mentionne que cela pourrait augmenter jusqu'à 30 fois les chances de développer des maladies auto-immunes. Comment ça se produit exactement ?
Oui, en effet, Fabrice, bah, l'étude en question, elle confirme des résultats d'études antérieures qui avaient déjà montré donc à peu près la même chose. Donc les sujets qui présentent des niveaux élevés d'anticorps de la jonction serrée, hein, c'est ces jonctions entre les entérocytes, hein, les cellules de l'intestin, ces personnes-là, elles présentent des niveaux plus élevés d'anticorps que l'on retrouve dans le diabète de type 1, par exemple. Les maladies auto-immunes, ce sont aussi les maladies thyroïdiennes auto-immunes, et notamment la maladie d'Hashimoto. La maladie d'Addison, ça c'est une maladie auto-immune qui concerne les surrénales. Il y a aussi des maladies auto-immunes qui concernent l'insuffisance ovarienne et testiculaire, qui donnent des problèmes de fertilité, la cholangite sclérosante primitive, l'hépatite auto-immune, voilà, l'auto-immunité gastrique aussi semble touchée, et donc les maladies aussi inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc on voit que voilà, quand il y a des marqueurs de l'hyperperméabilité intestinale, eh bien il y a aussi un taux de ces anticorps là, qu'on retrouve dans ces différentes maladies auto-immunes qui est augmenté. Donc voilà, les cellules de notre intestin sont liées par des molécules comme l'occludine par exemple, qui sont des molécules qui sont elles-mêmes régulées par la zonuline. Cette zonuline pardon, qui décide quand ouvrir ou fermer ces jonctions. Et lorsque l'intestin est endommagé, ces mécanismes sont perturbés et ça conduit à l'inflammation et à la production d'anticorps contre ces molécules et ce qui indique donc l'hyperperméabilité de l'intestin. Un lien a également été trouvé entre les anticorps contre la zonuline et l'occludine et l'auto-immunité neurologique et ça suggère que la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique hein, entre le sang et le cerveau peut jouer un rôle aussi dans les troubles neuro-inflammatoires. Donc, outre l'auto-immunité, l'hyperperméabilité intestinale, il y a plein d'études sur le sujet qui montrent qu'elle est liée à un nombre important de pathologies chroniques, hein, surtout bien sûr, et notamment donc ces maladies inflammatoires de l'intestin, ça on en a parlé, mais aussi le syndrome de l'intestin irritable, la maladie du foie gras, vous savez la NASH, la maladie du foie gras non alcoolique, la maladie cœliaque et même l'obésité, et donc probablement en raison de l'activation immunitaire et l'inflammation que ça engendre. Et donc vraiment ça souligne l'importance cruciale de la barrière intestinale pour notre santé globale.
Philippe Lenoir, c'est pas monsieur Bonne Nouvelle, mais c'est monsieur qui nous éveille. Et ça, c'est important, voilà, d'être au courant de tout cela, parce qu'aussi, ça nous permet de pas forcément être ensuite dans une errance diagnostique, de savoir ce qui se passe, pourquoi, à quoi c'est dû. Donc, c'est important, je vous remercie. On marque une première pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio.
Depuis plus de 20 ans, Bionutrix, groupe Metagenix, Alliscience et Micronutrition, pour devenir le leader incontesté de l'innovation nutrition fonctionnelle. Du concept visionnaire à la réalisation de solutions exclusives de pointe, nous sommes la référence pour fournir des compléments alimentaires adaptés et de haute qualité. Notre mission est claire, améliorer la santé et la qualité de vie des patients qui nous font confiance grâce à la science. Bionutrix, groupe Métagénix, la rencontre de la micronutrition et de l'excellence scientifique pour la santé.
Lifestyle Medicine, Philippe Lenoir sur Nutri Radio.
L'hyperméabilité intestinale, un sujet de plus en plus d'actualité. On comprend pourquoi quand on a écouté Philippe Lenoir en première partie d'émission. Si vous venez d'arriver, l'émission elle sera dispo en podcast à partir de dimanche 18h. D'ici là, Philippe, comment peut-on mesurer sa perméabilité intestinale? Est-ce que c'est possible pour savoir si on est proche de collapser ou pas?
Ouais, donc Fabrice, alors c'est pas un test qui est fait en pratique courante, mais par contre on peut le faire dans des labos spécialisés. Alors ce sont des tests, alors il y a différents types de tests, on va peut-être s'apesantir un peu dessus. Déjà on peut le mesurer par des tests directs, donc l'idée là c'est de faire ingérer au patient une molécule qui ne peut être ni absorbée ni métabolisée, et en fait on mesure sa concentration dans le sang ou l'urine après un certain temps. Donc on fait ingérer et ensuite on mesure dans le sang ou dans l'urine, et ces molécules, ce sont souvent des sucres, hein, des sucres spécifiques comme le lactulose, le mannitol ou le sucralose. En fait, ils aident à évaluer la perméabilité de différentes parties de l'intestin en fonction de leur taille et du moment de la collecte de l'échantillon. Par exemple, le rapport entre le lactulose et le mannitol, ça indique la perméabilité de l'intestin grêle, tandis que le rapport entre le sucralose et le mannitol, ça informe plutôt sur celle du côlon. Et ces tests, ils nécessitent un échantillon de sang ou d'urine pour le coup. Et donc concrètement, par exemple, pour le test au lactulose et au mannitol, le patient il doit boire une solution qui contient ces deux sucres. Et en fait, les urines vont être analysées par la suite. Le lactulose, c'est un gros sucre qui ne devrait pas passer facilement à travers la paroi de l'intestin, tandis que le mannitol, lui, il est plus petit, il peut passer plus facilement. Et donc le ratio élevé du lactulose par rapport au mannitol dans l'urine, ça suggère une perméabilité d'intestin qui est accrue. Et en plus de ces tests fonctionnels, il y a différents moyens indirects pour évaluer la perméabilité de l'intestin. Ça inclut les biomarqueurs liés à la translocation bactérienne, à l'inflammation et à l'intégrité des cellules intestinales. Et donc, parmi ces biomarqueurs, le plus courant, c'est le LPS, lipopolysaccharide, et le LBP, ça veut dire protéine liant le LPS. Ça indique spécifiquement une perméabilité d'intestin accrue. Par contre, ça fonctionne que si on n'est pas malade, si on n'a pas une infection, une septicémie. La zonuline, on en entend parfois parler, c'est un régulateur des jonctions serrées entre les cellules de l'intestin. Et donc, c'est un autre indicateur indirect de la perméabilité. Il est mesuré parfois dans le sang, parfois dans les selles. Il y a aussi les anticorps IgA et IgG contre la flagelline dans le sérum. Voilà, ça peut aussi servir de biomarqueur. Dans les études sur les animaux, on analyse parfois des tissus qui sont accessibles. Et là, on mesure directement les protéines des jonctions serrées. Bon, on peut le faire évidemment que chez l'animal. Et donc, il existe diverses méthodes pour mesurer la perméabilité d'intestin. Encore une fois, c'est pas fait en pratique courante. C'est des tests qui coûtent assez cher. Et les sociétés savantes ne sont pas forcément pour faire ces tests en pratique courante, pour la simple et bonne raison que l'utilité clinique, elle est encore discutée. À la fois pour le manque de consensus sur la précision des tests, on ne sait pas trop quel test est le plus spécifique et le plus sensible, et le manque d'études aussi cliniques sur l'effet du traitement de l'hyperperméabilité intestinale sur les différentes pathologies. Est-ce que le fait de traiter cette hyperperméabilité intestinale, est-ce que ça va vraiment améliorer les pathologies? Il manque encore des données, et donc c'est pour ça que les tests ne sont pas remboursés. Donc c'est surtout les médecins fonctionnels ou les micronutritionnistes, je vais y arriver, qui les pratiquent. Vous allez voir, parce qu'on va parler un petit peu des traitements, est-ce que ça vaut le coup de le faire? La question se pose.
La question se pose, et je ne me sens pas du tout obligé de vous la poser, mais du coup, je vous la pose. Est-ce qu'il existe des moyens de prévenir ou de traiter cette hyperméabilité intestinale?
Ouais, alors Oui, donc c'est surtout le mode de vie. C'est pour ça que la question vraiment de savoir s'il faut faire ces examens ou pas, bah, est-ce que c'est utile, sachant qu'en fait finalement c'est surtout le mode de vie qui va être essentiel. Donc au final, bon, autant optimiser directement son mode de vie. Et donc ça inclut une alimentation riche en fibres alimentaires surtout, donc le psyllium par exemple, l'inuline ou les galactosaccharides. Bah, je dis plein de mots compliqués. Voilà. Donc ça, on les trouve dans les aliments comme la chicorée, l'ail, l'oignon, les bananes, les asperges, les légumineuses, les céréales complètes aussi. Donc c'est des fibres qui nourrissent nos bactéries intestinales et notamment celles qui sont bénéfiques pour produire des acides gras à chaîne courte. Ça renforce la barrière intestinale. Le propionate, le butyrate, ce sont des acides gras à chaîne courte et qui sont vraiment très, enfin, très nécessaires pour les muqueuses de l'intestin. Il y a aussi le fait de gérer le stress. Hein. Le stress est pourvoyeur d'hyperperméabilité intestinale. Donc voilà, bon là, il faut arriver tant bien que mal arriver à gérer son stress, éviter la consommation excessive d'alcool, ça c'est primordial. Et puis il y a certains médicaments qui peuvent endommager l'intestin, surtout évidemment les antibiotiques. Après, il faut faire attention aussi aux carences, parce qu'on sait que des carences en vitamine A et en vitamine D, il y a quelques études précliniques qui montrent que ça peut réguler l'expression des molécules de la jonction serrée, et donc ça peut moduler le système immunitaire, surtout muqueux. Les acides aminés comme la glutamine, l'arginine et le tryptophane ont aussi un rôle dans le maintien de l'intégrité de la barrière intestinale. Il y a des minéraux, le zinc notamment, et aussi potentiellement le sélénium et le cuivre, qui sont impliqués dans l'intégrité de la muqueuse et donc de la barrière épithéliale intestinale. Et donc, il faut faire attention à ne pas manquer de ces minéraux. Voilà, donc il y a différents composés qui agissent sur les mécanismes de barrière intestinale. Les flavonoïdes, ça c'est les fruits, les légumes, le thé, le vin, ça peut améliorer la santé de l'intestin. Ça aide à réparer les fonctions de la barrière intestinale en agissant sur les protéines clés.
Philippe,
la L-glutamine. Oui.
Excusez-moi, je vous coupe en plein élan, c'est horrible, mais au moins les auditeurs vont rester avec nous, je l'espère, chers auditeurs, parce qu'on marque une dernière pause, c'était le moment, hein. Philippe, je suis désolé, on reprend ça juste après, savoir comment lutter contre cette hyperméabilité intestinale. Vous nous avez donné déjà quelques composés, quelques actifs d'intérêt, comme dernièrement ces flavonoïdes, et vous alliez nous parler de la L-glutamine. On marque une pause et on se retrouve justement pour aller plus loin dans ces explications, c'est sur Nutri Radio.
Lifestyle Medicine, Philippe Lenoir sur Nutri Radio.
L'hyperméabilité intestinale, c'est le sujet du jour avec Philippe Lenoir. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien, on va pas tout refaire, mais néanmoins, sachez qu'à la fin de la semaine, à partir de dimanche 18h, l'émission elle sera dispo en podcast sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Et puis la bonne nouvelle, c'est que si vous venez de nous rejoindre, vous n'avez pas forcément ce petit côté alarmant qu'on a eu en début d'émission, qui était alarmant, mais parce qu'il faut faire les constats, il faut savoir lire ces études cliniques qui sont sorties, c'est ce que se propose de faire régulièrement le docteur Philippe Lenoir. Et alors là, vous êtes sur la bonne partie, puisqu'on explique on est en train de nous le docteur Philippe Lenoir nous donne des actifs, des ingrédients d'intérêt. Alors, vous savez, on est dans la médecine du mode de vie, donc ils peuvent nous permettre, sans se substituer à un avis médical ni à un traitement, bien évidemment, mais on va dire d'anticiper le mieux possible. Vous avez parlé des flavonoïdes et vous étiez sur le point de nous expliquer le rôle de la L-glutamine.
Oui, tout à fait. Donc là, j'ai passé en revue différents types de composés qui sont intéressants, alors surtout dans des études précliniques. Et maintenant, là, c'est des études cliniques. C'est la L-glutamine pure, donc à la dose de 5 grammes fois 3 par jour. Ça a montré son efficacité dans une étude randomisée qui incluait uniquement des patients qui avaient, vous savez, un syndrome de l'intestin irritable et pas n'importe lequel. C'était celui suite à une infection digestive avec des diarrhées et une anomalie vérifiée de la perméabilité d'intestin. C'était un test, si vous avez bien suivi, l'actu mannitol. Et donc ces patients-là, après 8 semaines de traitement à la L-glutamine, je répète la posologie 5 grammes 3 fois par jour, ce traitement a été associé à une amélioration du score de sévérité. Donc c'est un score qu'on utilise souvent pour l'intestin irritable, ça s'appelle IBS SSS. Et donc ces patients, ils ont gagné 50 points. Donc c'est un score qui va de mémoire jusqu'à 300 points. Donc vous voyez, c'est pas mal du tout. Et donc 50 points, c'est souvent le cut-off. On dit qu'il y a une amélioration significative quand c'est supérieur à 50 points. Et donc là, ça a été le cas chez 80% des cas contre moins de 10% chez ceux qui prenaient le placebo. Et donc ça s'accompagnait d'une correction des anomalies de la perméabilité. d'une diminution du nombre de sels et aussi une amélioration de leur consistance. Donc la L-glutamine pure, ça pourrait être efficace contre l'intestin perméable, hyperperméable, pardon. Mais en revanche, je pense qu'il faut quand même d'autres études pour confirmer, parce que c'est une étude isolée, et donc il faudrait pouvoir augmenter le niveau de preuve avec une autre étude qui dit la même chose. Et donc là, on attend les autres études. Il y a une autre étude quand même sur le sujet. Alors, c'était de la L-glutamine, mais pas que. Il y avait aussi de la curcumine, de l'aloe vera, de l'orme glissant, je connaissais pas, la gomme de goire, la pectine et l'huile de menthe poivrée. Donc, c'était un mélange de plantes et de nutriments. Et donc, ça améliorait de manière significative la fréquence et la sévérité des symptômes chez ces patients, toujours les patients qui souffraient d'un syndrome de l'intestin irritable. Donc 60 à 80% d'amélioration dans cette étude, mais c'était un petit échantillon, donc pas beaucoup de patients. C'était aussi amélioré de la réduction la perméabilité d'intestin, toujours ce test, hein, lactulose mannitol. Et puis aussi, les chercheurs ont noté des changements bénéfiques au niveau de la composition du microbiote. Donc voilà, il y a quand même deux études sur la L-glutamine, dont une avec d'autres composés.
Très bien. Et ce qui concerne les approches basées sur les microbiotes ?
Oui, alors les probiotiques, est-ce que c'est efficace ? Ça peut probablement jouer un rôle en améliorant encore une fois cette barrière intestinale, et notamment, vous savez, la couche de mucus, pardon. Et donc les bactéries bénéfiques, ça serait celles du genre Bifidobacterium et aussi Lactobacillus rhamnosus, qui ont montré dans certaines études des effets intéressants.
Le Lactobacillus rhamnosus, décidément intéressant à plus d'un titre. Un dernier conseil peut-être pour nos auditeurs, Philippe, avant de se quitter.
Alors, le dernier conseil, ça pourrait être de bien s'écouter. Voilà, si vous présentez des symptômes comme des troubles digestifs, de la fatigue, des réactions auto-immunes, bon, de toute manière, il faut consulter un professionnel de santé, ça c'est impératif. Et donc, je dirais que prendre soin de son intestin, c'est aussi prendre soin de sa santé dans son ensemble. Et donc, il ne faut pas négliger la partie mode de vie. Hein. Toujours éviter tout ce qui est aliments ultra transformés, ça on le répétera jamais assez. Et donc, remplacer ça par des aliments bruts avec des fibres à l'intérieur. Faire attention au stress. Bon, ça, des fois, on est un peu démunis, mais il y a des techniques de gestion du stress. L'alcool, c'est un poison dans bien des cas. Et puis les médicaments, le moins et le mieux, mais s'il faut, il faut bien sûr.
Attendez, vous avez dit l'alcool, l'alcool, c'est un poison dans bien des cas, et c'est vrai, et vous aviez raison de le rappeler, mais d'un autre côté, j'ai cru comprendre que vous avez dit que le vin, c'était riche en polyphénol.
J'étais sûr. Fabrice, j'étais sûr que vous alliez relever ce. Oui, alors bon, le vin, parce qu'à cause des flavonoïdes du vin, s'il fallait boire de l'alcool, effectivement, à mon avis, il vaut mieux boire du vin et du vin rouge. Ça reste. Il vaut encore mieux ne rien boire et puis essayer de se.
Essayer de se saouler, il vaut mieux rien boire
avec autre chose, quoi.
Il vaut mieux ne rien boire, essayer de se saouler avec autre chose. Ok, très bien. Bon, si vous avez un ami qui vous saoule, prenez-le, discutez avec lui. D'ailleurs, j'ai eu une excellente série sur Netflix, je crois, qui parle de ça. Quelqu'un qui va drainer l'énergie, c'est un vampire énergétique. C'était excellent. Bien, mais merci beaucoup, Philippe. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de centenaires qui, quand on leur demande, dans ces fameuses zones bleues, il y en a quelques-uns qui disent un verre de vin par jour. Mais. À consommer avec extrême modération, bien évidemment, car le docteur Philippe Lenoir l'a rappelé, dans la plupart des cas, l'alcool est un poison. Merci Philippe pour ces conseils avisés, pour ces conseils réguliers sur Nutri Radio. Je sais que pour vous, c'est un travail de voir toutes ces études cliniques, de faire cesser. C'est un rythme, hein, un rythme que moi, ça vous permet de maintenir le. Vous savez, c'est pour votre santé mentale que je fais ça. C'est pour, ça vous permet. Et d'ailleurs,
c'est important.
Mais oui, et j'en profite. Vos capacités cognitives. Et j'en profite pour vous dire que vous êtes nombreux à, depuis le début de cette saison Lifetime Medicine sur Nutri Radio, à nous envoyer des questions. On les oublie pas. On va faire une spéciale question-réponse là dans les semaines à venir, étalée sur plusieurs émissions. Comme ça, on pourra aller un peu plus loin sur des explications dont vous avez besoin. L'émission à retrouver en podcast à partir de dimanche, 18h sur Nutri Radio. D'ici là, portez-vous bien, Philippe.
À la semaine prochaine. Fabrice.
À la semaine prochaine. C'est le retour de la musique. Restez avec nous sur Nutri Radio.
Lifestyle Medicine, Philippe Lenoir sur Nutri Radio.